Chapitre 31. Dans son rêve, Jane se trouvait dans une pièce inconnue, près d'une fenêtre ouverte derrière laquelle l'attendait une obscurité si dense qu'elle en était palpable. Elle n'en devinait pas moins, dans la nuit noire, des bâtiments et des dédales de rues invisibles, grouillant de gens préoccupés par des missions urgentes. Leurs pas pressés et leur respiration haletante lui parvenaient à travers l'obscurité. Une voix s'éleva derrière elle. « Qu'as-tu vu, Jenny ?» Elle se retourna et découvrit son père, Martin Duroc, qui l'observait avec une expression digne d'une gargouille. « Qu'as-tu vu ?» Les bras le long du corps, poings serrés, il avait des mains d'assassin. Des mains qui n'avaient rien de commun avec celles d'un pianiste de renommée internationale. Elle lui répondait qu'elle n'avait rien vu, alors il lui demandait « Qu'as-tu entendu, Jenny ?» Ses poings étaient durs comme de la pierre, son regard si aiguisé qu'il aurait pu la cisailler en deux avec ses yeux. « Qu'as-tu entendu, ma fille ?» Elle lui répondait qu'elle n'avait rien entendu, rien du tout. Au même moment, une voix s'échappait de l'horrible ruche invisible, de l'autre côté de la fenêtre noire. « Maman, où es-tu ? Où es-tu, maman ?» En tournant le dos à son père, Jane cessait brusquement d'être une petite fille pour devenir une femme. La voix qui lui parvenait de ce royaume de noirceur et de servitude était celle de son fils adoré, la voix de Travis.
« J'ai peur. Si tu savais comme j'ai peur. Où es-tu, maman ?»
Elle appelait le petit garçon, tendait les bras en direction de la fenêtre noire, et sa main disparaissait dans la nuit noire, comme sectionnée au niveau du poignet. Elle disait à Travis de se laisser guider par sa voix, de lui tendre la main, mais Travis la cherchait en vain des doigts. Plus elle l'appelait, et plus elle enfonçait sa main dans ce noir qui l'amputait, plus la voix du petit garçon devenait lointaine, jusqu'à se transformer en cri. Jane se réveilla en sursaut dans le fauteuil de la chambre de l'Holiday Inn. Elle finit par comprendre que les coups frappés à la porte étaient en vérité les battements de son cœur rempli de terreur. Elle se passa la main sur le visage afin de chasser les bribes de son cauchemar. Vikram Rainkar, penché sur son ordinateur, travaillait sur le petit bureau de la pièce. « Tu avances ?» s'enquit Jane.
« J'ai presque fini. »
Elle regarda sa montre. « Ils seront là dans 20 minutes.
Je les attends de pied ferme. »
Elle s'enferma dans la salle de bain, se passa les mains sous l'eau et se regarda dans la glace en se demandant comment la peur pouvait l'étreindre de la sorte, sans que sa détresse se lise sur ses traits. Ce n'était pas la formation reçue à Quantico qui lui avait appris à dissimuler ses émotions. Sans doute était-ce une conséquence de l'enfance, lorsqu'elle avait appris à cacher sa peur à Martin Duroc. Si jamais son père l'avait soupçonné d'avoir vu et entendu ce qui s'était passé la nuit où sa mère avait trouvé la mort, il n'aurait pas hésité un instant à organiser un accident pour se débarrasser d'elle et conjurer la menace qu'elle représentait. Cet instinct de survie lui servirait grandement pour mener à bien la terrible tâche qui l'attendait. Lorsqu'elle sortit de la salle de bain, Vikram avait refermé son ordinateur. Debout à la fenêtre, il observait le parking. Elle s'approcha et posa une main sur son épaule. « Comment te sens-tu ? »
« Bien.
Je suis prêt. » « Quoi qu'il advienne, pars sans te retourner.
Je connais le programme.
En revanche, je m'inquiète au sujet de Ganesh. J'aurais dû me douter que derrière son intelligence, c'était encore un gamin.
Ce n'est pas le moment de te préoccuper de lui. Tu ne dois penser qu'à toi pour conserver tous tes réflexes. »
Un faucon à queue rousse fondit du ciel au même moment. Il s'abattit sur une proie aperçue sur le parking, la frappa à plusieurs reprises de son bec meurtrier et reprit son vol vers la stratosphère en passant devant leur fenêtre. Jane remarqua qu'il tenait entre ses serres un serpent à demi-mort qui s'agitait faiblement, la gueule serrée autour de l'une des pattes de l'oiseau. La scène avait tout d'un avertissement. Restait à savoir à qui celui-ci s'adressait.